VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du mercredi 25 août 2021. Voici d'abord le sommaire. L'ex-président tchadien Hissène Habré sera enterré au Sénégal, a affirmé une de ses épouses. En Tanzanie, trois policiers et un agent de sécurité privée tués dans une fusillade à Dar es Salaam. Dans le nord du Cameroun, des milliers d'anciens combattants de Boko Haram se rendent avec armes et bagages. Arrivé en Ouganda, de 51 réfugiés afghans, Kigali aussi va accueillir des étudiantes afghanes. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'ancien président tchadien Hissène Habré, décédé mardi, sera enterré au Sénégal, faute d'être entièrement réhabilité dans son pays, a affirmé une de ses épouses. Le Point avec Claire Morin-Gibourg.
Le jour et le lieu de l'inhumation n'ont pas été communiqués, mais Hissène Habré reposera en terre sénégalaise, une terre d'islam, a déclaré dans un communiqué l'une de ses épouses, Fatimé Raymond Habré. Elle a ajouté que le jour où le président Habré sera entièrement réhabilité et tout ce qu'il a fait pour son pays sera reconnu, alors il pourra se reposer en terre tchadienne avec tous les honneurs dus à son rang. Le gouvernement tchadien avait indiqué mardi qu'il ne s'opposerait pas au rapatriement de sa dépouille, mais qu'aucun hommage officiel ne lui serait rendu en raison de ses condamnations et par respect pour les victimes. L'ancien chef d'État tchadien, de 1982 à 1990, est mort mardi à 79 ans du Covid-19 à Dakar, où il avait été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité.
16 soldats ont été tués lors d'une attaque menée mardi par le groupe djihadiste Boko Haram à Barwa, une localité du sud-est du Niger, proche du Nigeria, a annoncé mercredi le ministre nigérien de la Défense, Alkassoum Indatou, dans un communiqué transmis à l'AFP. C'est la première attaque visant Barwa, localité riveraine du lac Tchad, depuis le retour le 20 juin de plus de ces 6000 habitants qui avaient fui les atrocités des djihadistes en 2015. Selon les autorités locales, entre juin et juillet, 26 573 personnes ayant fui ces violences avaient été reconduites dans 19 villages, dont Barwa. La sécurité avait été renforcée autour de ces villages, avait-elle affirmé. En Tanzanie, trois policiers et un agent de sécurité privée ont été tués mercredi dans une fusillade non loin de l'ambassade de France à Dar es Salaam, la capitale économique. Le Point avec Nanit Talani.
L'agresseur, dont les motivations sont pour l'instant inconnues, a été abattu par les forces de police. 6 autres personnes ont été blessées dans ces échanges de tirs, a précisé le chef des opérations de police, Liberatus Sabas. Il a appelé les résidents à rester calmes pendant que la police mène une enquête pour connaître la nationalité de l'agresseur et son mobile. L'inspecteur général de la police, Simon Siro, soutient que l'homme armé était un étranger et la police pense qu'il venait de Somalie. Selon lui, l'attaque pourrait être liée à l'insurrection djihadiste au Mozambique voisin. La présidente Samia Suluhu Hassan a présenté ses condoléances et a ordonné à la police d'entreprendre une enquête approfondie sur l'incident. L'attaque s'est produite non loin de l'endroit où a eu lieu l'attentat de 1998 à l'ambassade des États-Unis. Elle s'est produite peu de temps après l'exhortation de la présidente à des officiers supérieurs sur le renforcement de la lutte contre les crimes organisés, y compris le terrorisme et le trafic de drogue.
Le gouverneur Atou Matubwana du Congo central, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, est accusé de détournement de plus de 8 millions de dollars en 2020. L'inspection générale des finances a conclu dans une note au procureur général que la gestion du gouverneur Matubwana était caractérisée par l'absence des pièces justificatives des dépenses considérées comme des avantages légaux. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, s'est livré mardi lors d'une réunion publique avec des magistrats à une violente charge contre l'institution judiciaire dont la corruption est une honte qui empêche notamment le développement économique du pays. Partout où je vais, je reçois plus de 1000 doléances contre la justice par jour et je les trouve fondées, a déclaré le président devant plusieurs centaines de juges et procureurs. La famille et l'avocat belge de l'opposant rwandais Paul Rusesabagina, jugé pour terrorisme à Kigali dans un procès selon eux inéquitable, ont appelé mercredi les autorités belges à exiger son transfèrement en Belgique. L'avocat maître Vincent Lurquin, expulsé le 21 août du Rwanda après avoir été empêché de voir son client en prison, a expliqué qu'une enquête judiciaire a été ouverte en 2019 à Bruxelles après une plainte des autorités rwandaises contre M. Rusesabagina, ce qui, selon lui, justifie un transfèrement. 51 réfugiés afghans sont arrivés en Ouganda pour être accueillis temporairement, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement rwandais a confirmé que des dizaines d'écolières afghanes d'un internat pour filles sont en cours d'évacuation vers le Rwanda. Nathalie Barge.
Le ministère des Affaires étrangères ougandais a indiqué que l'accueil temporaire se fait à la demande des États-Unis pour des ressortissants afghans et d'autres personnes en transit vers les États-Unis et d'autres destinations dans le monde. L'ambassade des États-Unis à Kampala a remercié sur Twitter l'Ouganda pour son hospitalité envers ses communautés. L'Ouganda a accepté d'accueillir environ 2000 Afghans. Il était prévu que des Ougandais voyagent sur le même vol, mais il ne leur a pas été possible d'atteindre l'aéroport de Kaboul à cause de la situation sécuritaire, indique le gouvernement ougandais, précisant qu'ils arriveront dans un prochain vol. Par ailleurs, le gouvernement rwandais a confirmé l'arrivée prochaine à Kigali de près de 250 étudiantes afghanes, leurs professeurs, personnels et membres de leurs familles. L'annonce avait été faite hier sur le site internet de l'école privée Sola, un internat pour filles en Afghanistan.
L'Algérie a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc voisin, invoquant des actes hostiles perpétrés par le Maroc contre l'Algérie. Les relations entre l'Algérie et son voisin marocain sont difficiles depuis fort longtemps à cause du Sahara occidental. La récente normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a encore avivé les tensions avec l'Algérie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden salue l'avancée au Congrès américain de ses deux plans d'investissement dans les infrastructures et les dépenses sociales. Les démocrates à la Chambre ont pu surmonter leurs divisions pour faire avancer ces programmes d'un montant total de près de 5 000 milliards de dollars. Mais d'autres étapes restent à franchir. Abdelrahman Dia.
En réagissant au compromis qui a permis aux démocrates d'avancer dans le processus d'adoption du budget, le président Joe Biden a déclaré que ces investissements vont diminuer les dépenses des familles et pas seulement les soulager un peu. En outre, les États-Unis vont faire des investissements indispensables attendus depuis trop longtemps dans les infrastructures. La Chambre des représentants a approuvé une résolution qui permettra de contourner un possible blocage des républicains au Sénat afin de pouvoir adopter, avec les seules voix démocrates si nécessaire, le plan de réforme sociale. Les votes sur l'adoption définitive des deux plans ne sont pas attendus avant l'automne. D'ici là, les négociations entre démocrates s'annoncent tendues pour réconcilier les positions de l'aile gauche et des plus centristes. Ils ne disposent que d'une très étroite majorité au Congrès et doivent donc parvenir au plus grand consensus possible s'ils veulent faire approuver ces deux plans qui marqueraient profondément le mandat de Joe Biden.
La Cour suprême des États-Unis a déclaré mardi qu'une politique d'immigration contraignant les demandeurs d'asile à attendre au Mexique la date de leur convocation doit être rétablie, portant ainsi un coup dur à l'administration Biden. Dans le cadre du programme Restez au Mexique, dont l'ancien président Donald Trump, des dizaines de milliers de demandeurs d'asile, pour la plupart originaires d'Amérique centrale, ont été renvoyés au-delà de la frontière en attendant l'issue de leur demande. L'administration de M. Biden avait commencé à démanteler cette politique appelée « protocole de protection des migrants ». Deux parlementaires américains de retour de Kaboul ont mis en doute la date butoir du 31 août pour le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Leur voyage a suscité les critiques de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Les deux élus se sont rendus par leurs propres moyens, puis ont voyagé au bord d'un avion militaire d'un pays allié vers Kaboul, le tout sans coordination avec les diplomates ou le commandement militaire américain, selon des médias américains. L'Allemagne a affirmé mercredi avoir reçu l'assurance des talibans que des Afghans pourraient quitter leur pays à bord de vols commerciaux après le retrait définitif des troupes américaines le 31 août. Markus Prozel, envoyé spécial de l'Allemagne en Afghanistan, a précisé avoir discuté de la nécessité urgente d'avoir un aéroport de Kaboul qui fonctionne comme condition préalable au travail des ONG et des diplomates. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez ce soir Rosine Munezero pour la Minute Éco.
En RDC, la Banque mondiale a lancé le projet Kin-Elanda qui permettra de renforcer rapidement les capacités de gestion urbaine et d'améliorer l'accès aux infrastructures dans la ville de Kinshasa. La mise en œuvre est prévue sur 5 ans. Cette initiative est financée à hauteur de 500 millions de dollars américains par des dons et des crédits de l'Association internationale de développement ou IDA. Au Zimbabwe, un différend monétaire entre la Compagnie nationale d'électricité et le plus grand producteur privé d'électricité, Nyangani Renewable Energy, bloque les investissements privés dans le secteur. Nyangani Renewable Energy affirme qu'on lui doit 8,6 millions de dollars pour l'électricité fournie par sa centrale hydroélectrique et elle souhaite être payée en dollars américains, mais la ZTC veut payer en dollars zimbabwéens. L'issue de l'arbitrage international permettra de poursuivre ou non les investissements. La Banque d'investissement d'Angola n'est plus la seule entreprise du pays à proposer un service de paiement mobile. Unitel fait son entrée sur le marché et la concurrence s'annonce rude. Selon Miguel Geraldes, le directeur général d'Unitel, plusieurs milliers de dollars ont été investis dans la réalisation de ce projet.
Nous passons directement à votre page des sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Le Burkina Faso a fait le rappel des troupes pour les éliminatoires du Mondial 2022 contre le Niger le 2 septembre et l'Algérie le 7 septembre. Le stade du 4 août n'étant pas homologué par la FIFA, les deux rencontres devront avoir lieu au Maroc si toutefois les tensions diplomatiques entre le royaume chérifien et l'Algérie ne compliquent pas les choses. Sur cette liste du sélectionneur Kamou Malo, on note de grands absents, dont notamment l'attaquant Bertrand Traoré d'Aston Villa en Premier League et aussi le grand défenseur du Bayer Leverkusen en Bundesliga, Edmond Tapsoba. Les deux sont blessés. Le vieux capitaine Charles Kabore n'a pas non plus été rappelé, ainsi que le gaucher magique Alain Traoré. Les deux joueurs sont sans club. Franck Lassina Traoré du Shakhtar Donetsk animera l'attaque aux côtés de Hassan Bandé et Eric Traoré. Entre autres, Hervé Kofi sera dans les buts. Al Ahly a perdu son titre de champion d'Égypte, rapporte le site Afrique Foot. Vainqueur des 5 derniers championnats, les Diables Rouges ont fauté mardi en concédant le match nul contre El Gouna, 3-2, à l'occasion de l'avant-dernier match pendant que le Zamalek disposait 2-0 d'un tag El Arbi grâce à Sayed à la 6e minute, puis Ben Sharki à la 88e pour assurer le titre. Avec 6 points d'avance avant la dernière journée, les Chevaliers Blancs ne peuvent en effet plus être rejoints par leurs voisins et rivales. Le Paris Saint-Germain a dit non verbalement à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, selon le directeur sportif du PSG, Leonardo, ajoutant que l'offre d'environ 160 millions d'euros n'était pas suffisante pour l'attaquant star que le club aimerait garder. Verbalement, on a dit non au Real, a assuré Léo, estimant que cette offre du Real, autour de 160 millions d'euros, était une stratégie pour avoir un nom de notre part. Comme ça, ils diront qu'ils ont tout essayé. L'attaquant de Tottenham, Harry Kane, lui annonce sur son compte Twitter qu'il ne quitterait pas Tottenham cet été, alors que le Manchester City a tenté de le recruter et semblait sur le point de refaire une nouvelle offre. « Je vais rester à Tottenham cet été et je serai concentré à 100% pour aider l'équipe à réussir », a écrit l'attaquant et capitaine de la sélection nationale, mettant fin au suspense sur le dossier. Encore sous contrat jusqu'en 2024 avec les Spurs, Kane, 28 ans, avait laissé filtrer son envie de quitter son club de cœur qu'il avait rejoint en 2004.
C'était les sports d'O Bagassikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le nouveau président zambien Hakainde Hichilema a pris ses fonctions mardi, 12 jours après avoir battu le président sortant Edgar Lungu. Peter Clotty de VOA s'est entretenu avec Hichilema avant son investiture pour discuter des objectifs de son mandat de 5 ans. Les détails de cet entretien avec Gabi Dorsil.
Pour les 100 premiers jours de son mandat, Hakainde Hichilema a promis de faire de l'unité du pays sa priorité.
One, we want to reunite this country. This country has been divided.
D'abord, nous voulons réunifier ce pays divisé depuis tant d'années et les divisions sont visibles. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous les voyez dans les lieux de travail, dans les marchés, les divisions sont partout. Donc, nous voulons réunifier ce pays parce que ce n'est qu'avec l'unité, la paix et la stabilité que nous pourrons alors nous attaquer à notre deuxième chantier, celui de la reconstruction de notre pays.
Reconstruction, rebuilding our country.
Également dans son agenda, l'instauration de l'ordre public.
We will restore order in this country. There's not much you can do when there's chaos everywhere.
Nous allons rétablir l'ordre dans ce pays. Il n'y a pas grand-chose à faire quand il y a du chaos partout. Chaos dans les marchés, chaos dans les arrêts bus. Nous envoyons le signal que personne ne va retirer aux gens le droit d'être là où ils le souhaitent. Il y a maintenant de l'ordre sur les marchés. Il n'y a pas de hooliganisme et c'est le début car une fois que nous avons l'ordre, nous avons la normalité, nous avons la civilité, nous pouvons ensuite passer à autre chose.
Mais le plus grand défi qui attend le nouveau président zambien est celui de la dette, dans un pays où l'économie n'a cessé de s'affaiblir au cours de ces dernières années. La dette où le flou persiste, selon le nouveau président.
What is the true debt? Because there's a gray area there. What is the quantum of this debt?
Quelle est la vraie dette? Parce qu'il y a une zone grise là-bas. Quel est le montant de cette dette? Qu'est-ce qui serait confortable de dire avec confiance que c'est la position de la dette étrangère et intérieure? Nous ne savons pas. Des chiffres circulent. Nous voulons donc nous assurer très rapidement, dans les 100 prochains jours, établir quelle est la véritable position de la dette. Et l'un des principes que nous utiliserons est de nous asseoir avec les créanciers et d'avoir une conversation professionnelle, une conversation mûre, une conversation respectueuse pour voir comment nous sortirons ensemble de ce pétrin. Je viens du milieu des affaires. Vous ne payez pas vos dettes, vous n'êtes pas crédible. Maintenant, nous ne sommes pas crédibles, mais nous voulons ramener le pays à la crédibilité.
Hakainde Hichilema a été investi mardi dans ses fonctions de président de la Zambie. Il succède à Edgar Lungu, largement battu au scrutin du 12 août dernier.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le Cameroun a transformé des bâtiments publics à sa frontière nord avec le Nigeria en logements temporaires pour d'anciens militants de Boko Haram. Des centaines de membres ont fait défection du groupe islamiste, dont plus de 200 dimanche. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté par Nathalie Barge.
Selon le gouvernement camerounais, le centre de démobilisation et réinsertion à Méry abrite environ 1500 anciens militants de Boko Haram. Les responsables du DDR ont indiqué qu'une centaine de personnes sur 237 arrivées cette semaine sont d'anciens djihadistes. Les autres sont des femmes et des enfants, tous semblaient affamés. Alidou Faizar, 33 ans, dit qu'il a fait défection d'un camp du groupe islamiste dans la forêt de Sambisa, à la frontière avec le Nigeria.
Je suis fatigué de tuer et de piller. Boko Haram m'a promis d'améliorer mes conditions de vie lorsque j'ai rejoint le groupe djihadiste il y a 3 ans. Mais je suis maintenant plus pauvre et je souffre d'une mauvaise conscience me rappelant les crimes que j'ai commis. La paix n'a pas de prix.
Faisar souhaite retourner à Abadam dans l'état de Borno, au Nigeria. Selon les autorités camerounaises, près de 900 personnes sur les 1500 anciens djihadistes de Méry sont des Nigérians. Oumar Bichaïr, directeur du centre DDR de Méry, affirme que la structure est déjà à pleine capacité.
Notre centre provisoire de Méry est déjà saturé. Nous avons été amenés à les recevoir uniquement à Mora et sur deux sites. Au niveau de mon bureau, le préfet a réquisitionné le centre de promotion de la femme et de la famille de Mora pour mettre à notre disposition. Le gouverneur a déjà contacté son collègue de Borno State. Et au niveau de la force multinationale aussi, le commandant du secteur numéro 1, le général Bouba, a rendu compte à sa hiérarchie. Évidemment, le coordonnateur national aussi s'est rapproché du ministère des Relations extérieures pour examiner les mécanismes de retour.
Francis Fayengo, directeur du programme du DDR, a annoncé que le président Paul Biya a alloué des fonds pour la construction d'un centre pouvant accueillir 1500 personnes à Mémé, une ville du nord le long de la frontière avec le Nigeria. Il affirme que de nombreux militants désertent les camps des djihadistes.
Nous devons remercier les ex-combattants d'avoir déposé les armes. Je suis sûr qu'ils ont regardé les tableaux d'ensemble qui d'avoir la paix. Les autorités locales et la population vont les aider. Ils ne leur donneront pas seulement des choses matérielles, ils les conseillent. Vous voyez à quel point d'anciens combattants très jeunes luttent avec ferveur tous les jours à nos côtés pour appeler les autres dans la brousse à se rendre pour avoir la paix.
Le président Biya a demandé à gracier les combattants qui rendent leurs armes. Les Nigérians qui souhaitent retourner dans leur pays seront remis aux autorités nigérianes. Selon l'armée camerounaise, les djihadistes se sont rendus aux troupes de la force multinationale du bassin du lac Tchad, stationnée autour de la forêt de Sambisa. Selon elle, de nombreux combattants ont fait défection au Cameroun, au Nigeria et au Tchad, après la mort en mai de leur chef, Aboubakar Cheikho.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, quelques 500 enfants ont été sortis des mines grâce à une opération conduite par l'UNICEF. Ils ont été mis dans des écoles dans ce pays où la gratuité de la scolarité de base ne leur était pas accessible. Eddie Isango a joint à Lubumbashi Nenette Mwangé, directrice de l'ONG locale Association des femmes pour le développement communautaire que l'UNICEF a appuyé.
Beaucoup d'enfants traînaient dans des carrières minières à côté de leur maman. C'est à partir du mois de janvier que nous avons fait l'identification de 9 carrières minières de Kipushi. Et de là, nous avons identifié plus de 2000 enfants. Mais lorsque nous avons introduit notre demande à l'UNICEF, il nous a proposé qu'il est capable d'appuyer 500 enfants. Et nous l'avons fait avec l'appui de PTS. Nous avons fait sortir 500 enfants sortis de carrières minières, dont ces enfants-là sont dans les 10 écoles de l'État à Kipushi, et les 15 enfants sont dans l'apprentissage des métiers. C'est-à-dire, il y a 485 enfants qui sont dans les écoles, et 15 enfants qui sont dans l'apprentissage des métiers, tels que la couture et l'auto-école.
500 enfants qui étaient dans les mines, vous leur avez trouvé des actes de naissance. Est-ce que c'est seulement les actes de naissance qui posaient problème pour qu'ils aillent à l'école?
Non. En fait, ce n'était pas seulement les actes de naissance. À la rentrée scolaire au mois de février, nous avons acheté les kits complets scolaires pour la scolarisation. Nous les avons distribués. Ils ont commencé à étudier. Mais c'est au fil du temps que nous avons constaté tous les enfants sortis dans des carrières minières n'avaient pas leur acte de naissance. Quand nous avons fait le plaidoyer pour que ces enfants aient leur acte de naissance, et à notre stratégie, on ne voulait pas seulement donner à 500 enfants sortis de carrière minière, nous avons aussi donné à d'autres enfants de la communauté qui étudiaient avec les enfants sortis dans des carrières minières.
Combien d'enfants sont dans les carrières minières? Est-ce que vous avez une estimation d'enfants qui sont là-bas?
À notre niveau, nous avons seulement fait l'identification dans 7 ou 8 carrières comme ça. Nous avons identifié plus de 2700 enfants qui traînaient dans des carrières. Et comme tu connais bien le projet ciblait seulement 500. C'est avec les 500 que nous avons retiré dans les écoles, les autres enfants traînent encore dans des carrières minières.
Quand vous dites trimballer ou traîner dans les carrières minières, ça veut dire qu'ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils font là?
Il y a les enfants qui sont les transporteurs, les enfants qui sont les nettoyeurs des minerais, et les enfants sont là en train de tamiser les minerais au profit des adultes, quoi.
Donc, ce sont des travailleurs dans les mines.
Oui, ils sont des travailleurs dans les carrières minières. Ce sont des adultes qui utilisent les enfants et en les payant 500 francs, 1000 francs. Il a beaucoup travaillé.
Qu'est-ce qui explique qu'il y ait beaucoup d'enfants dans les carrières minières? L'école est gratuite en RDC?
Le problème, ce n'est pas de dire l'école est gratuite. L'école peut être gratuite, mais si l'enfant partait à l'école en rentrant, il n'a pas à manger, est-ce qu'il va rester à l'école? Et si les parents n'ont pas de moyens pour le faire entrer au même moment avec les autres, est-ce que l'enfant peut étudier?
Nénette Mwangé, directrice de l'Association des femmes pour le développement communautaire.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
L'Algérie a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin, accusant le royaume d'action hostile. C'est depuis des mois que les tensions sont exacerbées entre ces deux pays. Pour analyser les raisons de cette rupture, Mohamedou Onfa a joint Ibrahima Kan, qui dirige le programme de plaidoyer pour l'Union africaine du réseau Open Society en Afrique de l'Ouest.
Pas du tout surpris, parce que vous savez que l'Algérie avait à deux reprises ces derniers temps dénoncé le comportement du Maroc. D'abord à cause des incendies qui ont eu lieu en Kabylie, où les Algériens estimaient qu'il y avait une main l'homme de terroristes qui est soutenu par le Maroc et qui est à l'origine de ces incendies. Deuxièmement, le soutien ouvert du Maroc au mouvement qui essaie de réclamer l'indépendance de la Kabylie. Il y a aussi cette affaire Pegasus dans laquelle apparemment le secret marocain avait mis sous écoute certains responsables algériens. Et donc la suite logique de cette situation a été la rupture des relations diplomatiques. Ça paraît quand même être une décision extrême du gouvernement algérien.
Pourquoi l'Algérie continue à soutenir le Front Polisario, mettant ainsi en péril ses relations avec son voisin marocain?
L'affaire du Sahara occidental, au départ, c'était une affaire d'indépendance, une affaire d'accession d'un territoire colonisé par l'Espagne à la souveraineté internationale. Pour qui sait comment l'Algérie a acquis son indépendance, on peut comprendre que la question de l'autodétermination des peuples soit un élément central de sa diplomatie. Depuis le temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les Marocains ont occupé une partie du Sahara, commencé à mettre en valeur certaines villes, exploiter les ressources. Au plan diplomatique et au plan international, la crise du Sahara n'a pas connu de solution. Piétine au niveau des Nations Unies. L'affaire avait été transférée au niveau africain. Tant que le problème n'est pas réglé, à l'amiable va toujours poser un problème entre les deux pays. Et
justement, comment entrevoyez-vous cette crise? Est-ce qu'elle fera intervenir des acteurs internationaux? Comment, selon vous, on peut apaiser cette tension entre les deux pays?
Les États-Unis étaient le pays qui pouvait jouer un rôle important, parce que si vous voyez comment la crise avait été gérée au niveau des Nations Unies, les États-Unis avaient toujours adopté une position médiane, bien qu'étant un pays très proche du Maroc, mais sur la question du Sahara occidental, il n'avait jamais pris fait et cause pour le Maroc. Ce qui a changé sous la présidence Trump. Trump a négocié la reconnaissance d'Israël par le Maroc, par aussi un infléchissement de la politique américaine au niveau du Sahara occidental. J'espère que les nouvelles autorités américaines font, comme ils l'ont fait dans d'autres situations, revenir sur un certain nombre de décisions prises par Trump. Cela pourrait amener les Américains à jouer un rôle, parce que les Algériens ont toujours pensé qu'une Amérique qui ne prend pas parti est un acteur important dans la recherche de solutions.
Ibrahima Kan, analyste politique, joint à Dakar. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manelakiza était à la présentation, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.